الانترفيو. مواصلين إذن في برنامجكم الانترفيو. توتشيت حاضر معنا كما قلت لكم قبلك شويه دجا سمعتوا السيد ماسيمو فيساتو اللي هو كونسي تكنيك برينسيبال على البريفونسيون دو ليكستريميزم فيولون في البنود. بونجور.
بونجور.
ميرسي داكسبتي نوتر انفيتاسيون سو ماتان. Alors, une question toute simple avant de parler de l'enquête sur l'état de la cohésion sociale dans une région fort intéressante, un sujet fort intéressant pour cette région qui est la région de Médnine. Je crois que la Médnine ou l'enquête est liée à ça. Mais avant ça, j'aimerais bien parler un petit peu de votre collaboration d'une manière générale avec la lutte, avec la commission de la lutte contre le terrorisme et le projet Tarabot sur lequel vous travaillez. Et les indicateurs qui nous viennent un petit peu du terrain, parce que là, on va parler un focus sur Médnine avec cette enquête, mais d'une manière générale, comment ça se passe sur le territoire tunisien? Comment se passe ce travail que vous faites, qui est très important, ce travail qui est fait en amont?
Très bien, si vous me permettez, je pars un peu de loin. Mm-hmm. Je vais un peu en amont aussi dans ma présentation. Et donc, c'est la prévention, ce que nous faisons, c'est la prévention de l'extrémisme violent. Qu'est-ce que c'est l'extrémisme violent? C'est l'intolérance qui incite à la violence, qui justifie et incite à la violence. Le programme des Nations Unies pour le développement, moi je travaille pour le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à différentes initiatives de prévention de l'extrémisme violent, mais c'est surtout centré sur le renforcement des droits et le développement inclusif, social, économique. Là, en Tunisie, nous avons plusieurs projets qui essayent de faire un développement économique plus inclusif, de renforcer la justice et l'accès aux droits, d'appliquer un modèle de police de proximité, donc le travail de la police avec les citoyens, de renforcer le rôle de la société civile. Après, il y a le projet pour lequel je travaille, c'est le projet Tarabot. C'est un projet qui essaye de renforcer la cohésion sociale. Qu'est-ce que c'est la cohésion sociale? C'est la confiance et la collaboration. C'est la confiance des citoyens parmi eux, avec vos voisins, vos concitoyens, mais aussi la confiance dans l'État, dans les institutions. Et c'est la collaboration au niveau d'une communauté, mais c'est aussi la collaboration avec les institutions. Et on peut rentrer après dans le détail de l'enquête. Le problème qu'on a trouvé, c'est que cette confiance dans l'État est très, très, très faible.
D'accord. Et cette confiance dans l'État, moi, ça me rappelle une anecdote. On en parlait enfin en off. Ce qui s'était passé à Ben Gardane, il y a eu cette attaque terroriste. Et je me rappelle Feu Slim Cheikh Adabi Rahmo, donc ancien ministre de la Santé, des Finances, etc. Et qui m'avait parlé une fois d'une anecdote fort intéressante qui aurait eu, qui avait, enfin lui, il l'avait dit, il y avait un camion rempli d'armes en libre service pour que les citoyens se servent et viennent rejoindre les rangs des terroristes pour les soutenir dans cette attaque. C'est-à-dire, dans leur attaque, il restait un facteur important et comptait sur le soutien des populations pour avoir assez d'hommes et mener leur mission. En fin de compte, c'est le contraire. Les citoyens se sont attaqués aux terroristes et ils ont soutenu. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, il me semble que vous m'en parliez d'ailleurs en off, que ces populations se disent en fin de compte, que fait l'État pour nous? Ils se sont délaissés, c'était les héros d'un combat contre le terrorisme. Ce sont des gens qui occupent l'espace, qui sont très stratégiques pour notre pays, qu'ils soient là-bas ou qu'ils soient dans d'autres zones frontalières. Il faut occuper l'espace, c'est connu de par le monde. Et aujourd'hui, c'est des populations qui se sont délaissées. Est-ce que vous retrouvez ce sentiment chez eux?
Oui, c'est bien ça. Et les événements de Ben Gardane ont été un test. Ils ont démontré où la population se positionne par rapport à les institutions, l'État, la patrie, et par rapport à l'extrémisme violent. Ils ont fait un choix qui a été très, très clair. Et au fait, je reviens au résultat de l'enquête. Il y a des éléments de cohésion très fortes, des sources de cohésion très fortes. C'est l'identification avec la patrie et l'identification avec le respect des libertés. Les libertés, c'est l'acquis de la révolution de 2011. Les gens considèrent que les libertés, c'est une source de cohésion pour les Tunisiens, et l'attachement à la patrie est très, très fort. Donc, les événements de Ben Gardane ont démontré ça aussi. Vous avez parlé de l'importance d'occuper l'espace, mais ce que nous proposons, c'est d'occuper l'espace, ne pas de façon militaire ou à travers les forces de sécurité, qui sont aussi nécessaires dans certains cas, mais c'est occuper l'espace avec le développement développement. C'est avec les écoles, avec les hôpitaux, c'est avec les entreprises privées, c'est avec le travail, l'emploi. Ça, c'est l'occupation d'espace qui peut vraiment renforcer une société et créer de la cohésion.
Mmh. Et alors, ce rapport, justement, ce rapport, bon, il est consacré à la région de Bénin, ce rapport sur la cohésion sociale, qu'est-ce qu'on apprend avec ce rapport ?
Alors, le rapport est le résultat d'une collaboration entre la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et le programme des Nations Unies pour le développement, notre projet Tarabout. On fait plusieurs choses avec ce projet. On fait surtout un accompagnement technique, un appui à la Commission. On fait un renforcement des capacités. On fait beaucoup de recherches, analyses. Mais on travaille aussi au niveau du territoire. Et Medellín, c'est un des gouvernorats pilotes dans lesquels on travaille. Et les résultats de ce travail vont surtout servir pour améliorer les politiques publiques, les stratégies pour la prévention de l'extrémisme violent, y compris la révision, la mise à jour de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme qui se fera cette année. On a voulu bien comprendre quelle est la réalité à Medellín, puisqu'on travaille à Medellín. Vous savez, dans ce domaine de la prévention de l'extrémisme violent, souvent on applique des méthodologies, des approches qui sont importées ou ne sont pas adaptées à la réalité. Pour nous, c'est très important de comprendre quelle est la réalité et partir avec des activités, des approches qui sont adaptées au contexte local. Donc on s'est dit, quel est l'état de la cohésion sociale à Medellín. On a fait donc une recherche, une enquête appuyée par l'Institut national de la statistique, approuvée par le Conseil national de la statistique, et avec un centre de recherche basé à Medellín, qui est l'Institut des régions arides. Les résultats de l'enquête sont assez clairs. Comme je vous ai dit, d'un côté, il y a des sources de cohésion très fortes. L'attachement à la patrie, l'attachement aux valeurs de la révolution, et liberté et les droits. Mais on a remarqué qu'il y a des faiblesses, des sources de faiblesses. Les liens de confiance entre citoyens et État sont très très faibles à Medellín. Les citoyens ont l'impression que l'État ne livre pas de services publics. Et quand les services publics sont livrés, ce n'est pas fait avec justice, avec transparence, redevabilité, et même pas avec respect. Il y a une question de respect qui est très fortement ressentie.
D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport ? Parce qu'il est assez intéressant. En plus, c'est un focus. Hein. C'est que sur la région de Medellín. Et après, j'aimerais bien revenir de Medellín vers la macro. Ce qu'on apprend de ce terrain d'une manière générale, et puis quelles sont les solutions, parce qu'on sait, c'est pas la première fois qu'on couvre ce sujet dans Expresso. On a interviewé plusieurs associations, on a parlé de plusieurs projets, Mobdiroun, ce qu'ils font au CRAM, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives, mais parfois, je le sens, on dirait, c'est pas des coups d'épée dans l'eau. Enfin, on sait pas, parce que de toute manière, si ça a un impact, ben on C'est ça ce qui est difficile dans le travail que vous faites, parce que si vous avez empêché des jeunes d'aller dans le mauvais chemin, vous ne le saurez pas de toute manière, parce que c'est, malheureusement, on sait que quand ça se passe mal, on se dit, ah, on aurait peut-être dû faire autrement, mais tant mieux en tout cas qu'il y ait des gens comme vous aujourd'hui sur le terrain. Mais comment être sûr d'avoir les bons résultats aujourd'hui, parce qu'on sait que sur le terrain, vous n'êtes pas seul, ça il faut le dire, il y a des gens qui travaillent à contre-courant, même sous couvert de certaines choses, mais qui aujourd'hui, au contraire, sont en train d'endoctriner des jeunes et des moins jeunes à contre-courant de ce que vous faites.
Mais justement, nous faisons un travail en amont, et c'est créer un contexte, créer les conditions qui empêchent la dérive extrémiste et la violence. C'est un travail qui nécessite la collaboration. Et c'est là où... Je vous invite à regarder ce qui fait la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, parce qu'ils sont extrêmement ouverts. On travaille avec eux, avec la société civile, on travaille avec l'académicien, on travaille avec, on est en train d'engager les entrepreneurs. On fait des recherches sur les coûts économiques de l'extrémisme violent en Tunisie.
Est-ce que vous avez un ou deux indicateurs sur ça ? Vous auriez un indicateur, deux indicateurs sur ça par rapport aux coûts ?
Bon, la recherche n'est pas complétée. D'accord. Mais par exemple, il y a clairement un impact très négatif de la violence sur le secteur du tourisme. Et il y a un déplacement des dépenses publiques vers la sécurité. Donc tout ce qui pourrait être investi sur l'infrastructure, mais même les services, les hôpitaux, les écoles, est investi sur la sécurité. Dans les dernières années, il y a eu une montée exponentielle des investissements publics, du budget de l'État qui est dépensé pour la sécurité et non pas pour l'éducation, qui pourrait être indiquer un peu l'intolérance et l'extrémisme, et non pas sur le développement. La région de Medellín, historiquement, ressent d'un déficit de développement. Et aujourd'hui, ce sentiment de défiance vis-à-vis aux institutions est aussi indice d'un besoin, un besoin de développement. Mm-hmm. L'enquête, c'est une façon d'écouter la voix des citoyens, et c'est le premier pas vers la création d'un lien de confiance. Si on veut travailler ensemble, si on veut créer un lien de confiance, il faut d'abord savoir écouter, il faut regarder en face la réalité, comprendre mm-hmm. quels sont les défis et les problèmes, et après chercher d'apporter des solutions.
Le constat, on le sait plus ou moins, même s'il y a des choses intéressantes qu'on découvre dans ce rapport par rapport au déficit de représentativité du pouvoir local, le potentiel d'instabilité au niveau des relations horizontales entre tribus, ça c'est quelque chose d'intéressant sur lequel vous faites un focus dans ce rapport. C'est si prononcé que ça? Vous avez un chiffre sur ça?
Alors, le chiffre n'est pas un chiffre négatif. Bon, il y a un chiffre positif et un chiffre un peu préoccupant. Mm-hmm. Le chiffre positif, c'est que les deux tiers des habitants de Medellín s'identifient avec la tribu. Mm-hmm. Mais c'est une source de cohésion sociale. La grande majorité s'identifie avec la patrie, ils s'identifient aussi avec la famille, et ils s'identifient aussi avec la tribu. Mais les relations entre différentes tribus sont positives. Donc, c'est une source de cohésion. Là où il y a une préoccupation, c'est le fait qu'à peu près un quart, presque 25% des citoyens de Medellín entre 25 et 44 ans ressentent les autres tribus comme une menace à leur intérêt économique, une menace à l'économie et à leur capacité de travailler. Donc ça, c'est peut-être un indice de la fragilité de l'économie à Medellín, où il y a beaucoup de chômage, et il n'y a pas beaucoup d'opportunités de développement, il y a beaucoup d'émigration, et les gens se sentent menacés dans leur capacité de travailler et de gagner pour sa propre famille.
En plus, la perception, il y a des fragilités de cette cohésion sociale, il y a une forte défiance à l'égard des institutions publiques et perception de corruption. Ils sont très nombreux à avoir la corruption partout, enfin pour eux, à ne pas avoir confiance dans les services de la douane, de la police, de la garde nationale, de la santé, et pour les tribunaux également. Donc le meilleur taux, c'est 35%, c'est pour les tribunaux. Les 35% n'ont pas confiance. Donc c'est ça dans les tribunaux, 47% considèrent que l'égalité devant la loi est très basse ou nulle, etc. Enfin, il y a beaucoup d'indicateurs, ça montre que tout ça est bien fragile. Alors, pour terminer, en 30 secondes, je vais vous compliquer la tâche, s'il y a une recommandation pour vous à l'issue de ce rapport sur la cohésion sociale à Medellín.
Bon, je vais en parler de deux. Un, c'est de capitaliser sur ce que nous appelons l'exceptionnalité tunisienne, c'est-à-dire cet attachement à la patrie et aux libertés. Et deux, c'est de renforcer ce lien de confiance, qui maintenant est très faible, entre institutions et citoyens. C'est à travers des services publics livrés avec efficacité, avec respect, transparence et redevabilité. Ça, c'est un peu la recommandation.
Il faut dire aussi qu'il y a une faible légitimité des corps intermédiaires, c'est-à-dire il y a 17% qui disent avoir confiance dans les associations, 11,8% dans les médias, 8,1% dans le personnel politique. C'est très très bas, je ne m'attendais pas à ça.
Non, exactement, ça complique la chose, parce que d'habitude, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques, les médias, font le lien entre les citoyens et les institutions. Et là, même la confiance dans ces corps intermédiaires est très faible. Mais de l'autre côté, il y a une mobilisation informelle très forte à Medellín. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile, et il y a beaucoup, maintenant il y a des mouvements informels qui se créent. Et il y a un besoin d'écouter ces mouvements, trouver façon de les engager de façon constructive et positive. Les liens formels entre citoyens et États sont un peu cassés. Mais il y a un dynamisme dans la société de Medellín qu'il faut savoir écouter.
Merci à vous, Monsieur Massimo Fusato. Je rappelle, conseiller technique principal au PNUD. Et vous travaillez principalement sur le projet Tarabot.
Merci, ça a été un plaisir.
Merci. Au revoir, Mostamena. Tout de suite, qu'on va le faire à la RSSA. On 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 va le faire à la RSSA.